Chapitre 23. L'odeur du parquet en chêne se mêle à celle de la transpiration. Saga est dans le studio 2 de la maison de la danse Dansenshus avec les deux enfants dont elle s'occupe. Il y a 2 ans, elle a contacté l'Institut suédois pour la trisomie afin d'y faire du bénévolat. Par la suite, elle s'est vue confier la responsabilité d'Astrid et de Nick. Un immense miroir recouvre un des murs de la salle et en face, sous la rangée de fenêtres, la barre de danse court tout le long de la pièce. Saga est agenouillée devant Astrid et l'aide à enfiler ses chaussons et ses jambières. Les deux enfants ont fait d'énormes progrès en danse au cours de l'année qui s'est écoulée. Dans leur groupe, les autres élèves ont entre 4 et 8 ans. Eux ont 11 ans, mais il est trop tôt pour qu'ils rejoignent le groupe des ados. Nick est le seul garçon, mais il adore le ballet et il dit souvent avec aplomb qu'il sera danseur au festival de la chanson Melodifestivalen. La plupart du temps, Saga oublie son travail lorsqu'elle est avec eux. Mais aujourd'hui, elle a du mal à penser à autre chose qu'à la mort de son ancien chef. La perte de Werner l'a ébranlée plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle l'a côtoyé presque quotidiennement tout au long de ses années à la CEPO. Et à bien des égards, il était son mentor. Si cette chasse à l'homme était censée être personnelle, le tueur a réussi son coup. Nick agrippe plusieurs fois l'entrejambe de son collant noir avant de regarder à l'intérieur de la ceinture. « Il est à l'envers ?» dit-il en souriant largement, dévoilant ses petites dents. « Tu veux que je t'aide ?» demande Saga en se levant. « Non, c'est bon. Alors je sors vous attendre. Tu veux pas danser avec nous ?» plaisante Astrid. « J'ose pas, » répond comme d'habitude Saga. « Mais si !» rit Astrid. « C'est trop difficile, » explique Saga. « On va t'aider. Fais comme ça, un grand plié, » lui montre Astrid. « Comme ça ?» essaie Saga. « Tu dois plier les jambes, » lui explique Nick. Un demi-plié et une pirouette. Saga tourne sur elle-même et Astrid l'applaudit. Tu te débrouilles très bien, dit la jeune fille. Tu trouves? Oui, très bien, répète Nick en mettant les mains sur sa bouche rieuse. Encore une fois, un demi-plié? La professeure de danse entre, traverse la salle, la poitrine bombée et la nuque tendue. Ses cheveux noirs sont rassemblés en un chignon bas. Elle s'arrête sous un ray de lumière qui forme des stries sur le parquet, se tourne vers les enfants, les regarde un instant en souriant, puis reprend son visage sérieux. « Allez, allez !» crie-t-elle. Tous les enfants se taisent et se précipitent vers elle afin qu'elle les compte. Saga quitte discrètement la pièce, rejoint la salle d'attente et s'achète une bouteille d'eau plate au distributeur. Un homme mince et âgé, vêtu d'une veste trop grande, est assis à une table, le regard rivé sur l'écran de son téléphone. Une jeune femme, enfoncée dans un canapé bordeaux, lit un épais livre emprunté à la bibliothèque. Saga s'assied face à elle, sur l'autre canapé, ouvre la bouteille et boit à grande gorgée. « Vous êtes danseuse ?» demande la jeune femme avec un phrasé un peu vieillot. « Non, et vous ?»« J'aurais bien aimé avoir du talent pour la danse, mais non. J'attends juste ma petite sœur. » Elle porte un coupe-vent, un jean noir et des baskets argentées. Sur le sol, entre ses pieds, est posé un sac à dos sale en forme de panda. Saga consulte ses mails sur son portable et ses pensées reviennent à Werner. On lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Il a essayé de s'enfuir dans les bains et était peut-être déjà mort lorsqu'on l'a treuillé dans le parking. L'homme à la table murmure quelque chose pour lui-même, presse un mouchoir sur son nez et penche la tête en arrière. Il a le crâne rasé, des pommettes hautes et une profonde cicatrice dans le cou, comme s'il avait été récemment opéré du larynx. Saga doit se rendre à l'agence de détective pour récupérer ses affaires, mais elle redoute de croiser son ex-patron. Sa seule vue la mettrait en rage, en s'emparant de son courrier privé. Il a retardé l'enquête. Des rires enthousiastes traversent les murs du studio de danse. Un bourdon s'engouffre par la fenêtre ouverte et va se cogner au plafond, La jeune femme a des cheveux raides d'un blond cendré, un front haut et des yeux clairs. Elle pince les lèvres en lisant. Après un moment, elle referme son livre en utilisant son doigt en guise de marque-page et regarde l'homme en costume gris, la tête penchée en arrière. « Qu'est-ce que vous lisez ?» demande Saga. « Des maths, la théorie des graphes, » répond-elle en croisant son regard. L'homme baisse son menton, continue à marmonner, tout en regardant la tache de sang sur son mouchoir. « Vous connaissez le problème des 7 ponts de Königsberg ?» demande la jeune femme avec son sérieux désuet. « Non, je ne crois pas. » « Ce n'est pas simple. Vous voulez essayer ?»« Oui, » sourit Saga. Königsberg était à l'origine située en Allemagne, mais après la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue russe, commence la jeune femme. Kaliningrad, acquiesce Saga. Elle remarque que l'homme plus âgé a commencé à les écouter. Bon, bref, poursuit la femme. Au XVIIIe siècle, les rives et les deux îles du fleuve étaient reliées par 7 ponts. Le problème consiste à déterminer s'il existe ou non une promenade permettant de passer une et une seule fois par chaque pont. Je comprends. Je le dessine, dit-elle en sortant un vieux ticket de caisse de son sac. Vous avez un stylo ? Non, malheureusement. L'homme en gris se lève, se dirige vers la jeune femme et lui tend un stylo sans dire un mot. Merci. Elle se met à dessiner. Saga regarde son visage concentré, sa bouche crispée et la ride qui se creuse entre ses sourcils clairs. Les poignets gris pâle de son coupe-vent sont un peu sales et ses ongles sont rongés. L'encre du stylo est rouge et il porte gravé la mention « De re militari » en lettres dorées. À l'époque, les ponts avaient des noms, explique la jeune femme en levant les yeux. Grünebrücke, Kremerbrücke, Köttelbrücke, mais ça n'a rien à voir avec la réponse. Pas pour un mathématicien, mais poser la question à un physicien quantique. Certains reporteraient le problème sur des graphes algébriques à l'aide d'algorithmes. La fille se tait lorsque l'homme se lève. Il range son portable dans sa poche intérieure, se poste devant la fenêtre, regarde dehors un instant avant de se diriger vers la sortie. Au moment même où il disparaît, Juna entre dans la salle d'attente et fait un signe à Saga. « Désolé, je dois parler à mon collègue, » dit Saga à la jeune femme en se levant. « Mais je vais essayer de résoudre le problème. »« Dites-moi ce que vous avez trouvé la semaine prochaine, » lui sourit-elle en lui tendant le dessin. « Ok. » Saga et Juna s'éloignent dans le couloir pour s'isoler. Ils se tiennent à côté du coin jeu qui donne sur la porte du studio 2. « Tu m'as appelé, qu'est-ce que tu voulais ?» demande Juna. « J'ai une piste qui s'est noyée dans tout le chaos autour de l'agression de Werner. » chuchote Saga. « Et je ne voulais pas en parler devant les autres parce que je suis un peu sorti du cadre. »« De quoi s'agit-il ? » ?»«
Tu te souviens de Suzanne Yelm ?»
demande Saga.
« Oui. »
« Tu te souviens qu'elle a été condamnée pour le meurtre d'un de nos collègues ?»
« J'ai témoigné devant le tribunal de première instance et la cour d'appel. »«
Elle a été libérée, et elle semble te rendre responsable de tout. »«
Comment tu sais ça ?» demande-t-il.
Saga est consciente qu'elle ne peut pas révéler à Juna qu'elle a désobéi aux ordres en rendant visite à Karl Speller.
« J'ai une source. »«
Qui ça ?»«
Je ne peux pas te le dire, mais Suzanne correspond à notre profil. » Et elle a été libérée juste avant que je reçoive la première carte postale.
Elle a sans conteste un lien très fort avec Jurek.
Acquiesce Juna.
Il l'a brisée, on le sait. Mais elle ne semble pas pouvoir, ou vouloir, faire le lien. C'est plus facile de rendre la police et le système judiciaire responsables, de te rendre responsable, toi.
Tu sais où elle habite ?
Elle n'a pas d'adresse, pas de carte bancaire, pas d'abonnement téléphonique, rien.
Suzanne Yelm était le médecin qui suivait Jurek Walter dans l'unité sécurisée de psychiatrie de l'hôpital Löwenstromska. Elle a été exposée à ces ténèbres pendant un long moment et a fini mentalement anéantie.
Juna, il faut que je te demande un truc. Est-ce que vous me faites suivre ?
Non,
répond-il. Si c'est le cas, je veux juste le savoir.
Je comprends.
Il y avait un homme ici, dans la salle d'attente qui...
Des voix excitées et des applaudissements retentissent derrière la porte et une marée d'enfants déferle dans le hall. Quoi ? Demande Juna.
Non, c'était rien. Oublie.
Astrid et Nick se précipitent en courant vers Saga. Tous les deux ont les joues en feu et semblent surexcités. Nick sautille sur place et Astrid attrape la main de Juna afin d'examiner ses ongles.